Nulla dies in linea. Pas de jour sans une seule ligne. Ni aucun jour sans un podcast. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes de retour en direct et en public depuis le cartouche, juste derrière le cartouche, donc c'est deux mots, hein, cartouche. Le bus à l'anglaise, le double d'équerre qui se situe juste derrière la gare Cornavin, ici à Genève, pour une émission en direct et en public, disions-nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, donc on a encore 40 minutes devant nous qui vont être habitées par la soirée de commémoration d'Ernesto Che Guevara, pour lequel nous, le jubilé du cinquantenaire de sa mort, de son assassinat en Bolivie, aura cours le lundi 9 octobre à l'Université ouvrière ici à Genève. Mais pour cela, nous recevons Vilma et Pierre. Bienvenue à vous.
Merci.
Vous êtes tous les deux membres, mais vous allez en dire quelques mots de plus du collectif Amérique latine Résistance. Et c'est à votre initiative que cette soirée de commémoration aura lieu ici à Genève. Mmh. Alors, on va commencer par les fondamentaux, hein, par les questions un petit peu triviales. Peut-être déjà de vous présenter un petit peu plus à fond vous-même. Et puis ensuite, nous présenterons le collectif Amérique latine Résistance. Qui êtes-vous ? Alors, Vilma, veux-tu commencer ? Qui es-tu, Vilma ?
Ouf. Alors là, moi, je suis une internationaliste... citoyenne du monde, voilà. Et mais bon, comme mes racines sont ancrées en Amérique latine, alors évidemment, cela me touche de plus près. Et en l'occurrence, la commémoration de l'assassinat du commandant Ernesto Che Guevara. Et évidemment, on ne pouvait pas laisser cette date passer comme ça, comme si de rien n'était. Et alors, on voulait rappeler à la mémoire des gens que lui, il était toujours présent dans nos mémoires, dans nos luttes, pas seulement en Amérique latine. Le laitier est le porte-parole, on peut dire, de toutes les luttes en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Asie, partout. Et il a marqué, pas seulement son époque, il a marqué l'histoire. La grande histoire, il est entré dans les grands livres d'histoire, malgré les assauts de la CIA, les États-Unis, les systèmes qui voudraient nous faire croire qu'il reste que sur les t-shirts ou bien sur les affiches. Non, le Che, il va beaucoup plus loin que ça. Et c'est une sorte de pont aussi entre générations. Hein? Parce que déjà, nos parents... le respecter, l'aimer, et les enfants, les petits-enfants, on continue. Et ça va continuer. Et parce qu'il était aussi éminemment un rebelle, mais en même temps qu'il était un politicien, un combattant, il nous rappelait toujours à l'éthique. Et ça, c'est important, surtout de nos jours, que les politiciens sont des simples politicards. Et alors, bon... Et le collectif Amérique latine Résistance, vise à surtout faire connaître les luttes en Amérique latine, mais pas qu'en Amérique latine, parce que finalement, on est, avec la globalisation aussi, hein, on est tous impliqués dans cette marche de l'humanité. On n'a qu'une seule terre, en danger. Et alors, nous, on essaye de mettre le point là-dessus, on est ensemble. On doit s'aider les uns et les autres, on doit être solidaires et avancer ensemble. Mmh. Alors, mais c'est important de rappeler que c'est comme dans une famille, hein, on se rappelle de nos morts, les absents, ceux qu'on a aimés. C'est pareil.
Tout à fait.
C'est aussi un ami. C'est un penseur. C'est bien de lire les écrits de Che. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'il était un penseur. Il nous a laissé beaucoup de livres. Oui. Et plusieurs de ces livres ont été traduits en français, en anglais, dans toutes les langues. Mais étonnamment, c'est difficile à les trouver. On les a édités, ils sont épuisés et on ne réédite pas.
C'est vrai qu'il y a une collection Maspero qui a édité pas mal des écrits de Che et qui effectivement ne sont pas réédités.
Oui.
Il se trouve qu'on est dans une situation
bizarre.
Bizarre, ouais, absolument. Pour toi, Vilma, alors, le Tché, les valeurs qu'il a pu véhiculer, comment est-ce que peut-on expliquer qu'il est tellement encore présent? Alors oui, on l'a dit d'une manière un petit peu frelatée sur ses t-shirts, mais quelque part, s'il est sur ses t-shirts, c'est qu'il est peut-être un peu dans la tête des personnes qui portent ses t-shirts. On va l'espérer.
On l'espère. Mais quand même, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas que les t-shirts, c'est les pancartes. On ne va pas passer des heures à confectionner une pancarte énorme et mettre la peinture. Ça prend du temps.
Oui.
Alors, on le fait parce que vraiment, on le sent. Hein? Et je pense que ces idées sont vivantes. Et ces idées nourrissent nos luttes d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, je voudrais qu'on passe à une chanson.
Ah, allons-y.
Et alors, nous allons écouter une chanson d'un interprète, compositeur, auteur, interprète, extraordinaire, qui est déjà décédé, mais qui était extraordinaire. Nous, on a eu la chance de l'écouter à Zurich.
Vous l'avez vu,
d'un concert Atahualpa Yupanqui, qui a écrit une très belle chanson dédiée au commandant Ernesto Che Guevara. La chanson s'appelle Nada Más. Rien de plus.
Rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda. Nada más, nada más. Con Dios, mis cuentas son con los hombres. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más. Mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera, nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. Y el que tenga alguna duda tiene mucho que aprender. Nada más, nada más. Rancho y caballo, es más liviana la pena. Teniendo rancho y caballo, es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me queda.
Je vais vérifier ça.
Je vais passer ce coup de fil.
Je vais le maintenir en vie, le maximum de temps.
Je vais déjeuner.
Libre Radio, la radio qui remet le couvert. www.libradio.org.
Voilà, donc nous sommes en compagnie de Vilma et Pierre du collectif Amérique Latine Résistance à l'aune de la soirée de commémoration du Che par lui-même qui aura lieu le lundi 9 octobre 2017 à 19h à l'Université ouvrière ici à Genève. Nous parlions donc justement des idées du Che qui traversent transversalement les temps. Est-ce que l'on pourrait dire que dans ce cas-là, le temps et la mémoire sont nos amis en ce qui concerne le commandante Guevara?
Oui, c'est évident. Et tout à l'heure, j'avais dit que il y a nos parents, nous, nos enfants, nos petits-enfants qui continuent à suivre les pas d'Ernesto Che Guevara. Parce que finalement, avec sa pensée et son exemple, il nous montre le chemin, qu'on le veuille ou non.
Alors, il y a 50 ans, il tombait sous les coups de fusil, les coups de revolver de l'armée bolivienne en Bolivie. Que faisait-il en Bolivie? Est-ce que l'on peut dire que le fait qu'il ait fini son existence en Bolivie veut dire quelque chose de ce qu'il était? Il a fini quelque part où il n'était pas là pour rien, il n'était pas là par hasard, et il ne faisait pas rien là où il était. Les conditions de son assassinat révèlent-elles peut-être quelque chose de son vivant, de toute sa vie?
Mais lui, il le disait bien, il ne voulait pas être un fonctionnaire, il était ministre à Cuba, parce qu'il était un combattant lors de la révolution cubaine, mais il a renoncé à tous ses titres, parce qu'il était commandant de la révolution cubaine, ministre au gouvernement cubain. Alors il a tout quitté, parce qu'il disait qu'il fallait disséminer ses idées des révolutions pour qu'enfin les êtres humains aient une dignité. Et alors il voulait aller de par le monde pour lutter. Et il voyait qu'un continent qui avait tellement besoin de justice et de dignité, des droits de droits humains, c'était l'Afrique. Il est allé en Afrique. Il est resté en Afrique, mais il est revenu de l'Afrique un peu triste parce qu'il n'imaginait pas que la différence des classes était tellement terrible. Il dit dans ses écrits, parce qu'il y a le journal de son expérience africaine. Et là, il raconte comment lui, il était étonné de voir la différence des classes aussi sociale tellement aiguë, parce que les dirigeants appartenaient à une classe sociale assez élevée, on peut dire entre guillemets, et le petit peuple avec qui lui, il s'est trouvé en brousse, ne parlait même pas le français. Alors il regrettait n'avoir pas appris les Swahili, par exemple. Il comprenait un petit peu, mais c'était pas assez pour échanger avec les gens. Il regrettait ça, cet écart qu'il y avait.
Sait-on s'il a entretenu des relations amicales tout au long de son existence, soit épistolaire, soit en arrivant à se voir avec certains personnages? Je pense typiquement à Thomas Sankara, à Steve Biko, à d'autres personnes, disons, qui ont habité cette époque-là.
Et il était au courant des luttes de ces personnes. Il a rencontré quelques dirigeants, mais je ne crois pas qu'il ait rencontré Sankara. Mais ensuite, il a décidé de continuer avec son idée, parce qu'il abritait toujours l'idée de faire quelque chose pour son pays d'origine, l'Argentine. Alors finalement, il est allé en Bolivie pour préparer la lutte continentale. Ce n'était pas que la Bolivie, parce qu'il disait... la Bolivie, géographiquement, se trouve au milieu de l'Amérique du Sud. Alors, la Bolivie a des frontières avec le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Pérou, le Paraguay. Alors, c'était ça qui l'attirait. Alors, l'endroit où il est allé, c'est parce qu'il devait devenir un camp d'entraînement. Ce n'était pas qu'il lançait la lutte en Bolivie. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes, pour commencer avec le PC bolivien, les dirigeants principaux du PC bolivien voulaient, lui, être à la tête de la guérilla. Les autres PC des autres pays limitrophes aussi criaient au ciel de ne pas être aussi présents. Alors c'était compliqué au niveau des PC. On sait bien que parfois les structures des partis peuvent être très lourdes. Alors lui, en plus, il y a eu des gens qui se sont fait capturer ou des gens qui ont déserté. C'était surtout ça qui a mis la puce à l'oreille à la CIA, parce qu'au départ, la CIA n'était pas encore en Bolivie. Et le même Che le dit quand il parle de Debré et de Bustos, qui étaient venus, soi-disant, oui, ils voulaient faire la guérilla et tout, mais après, ils ont paniqué, ils voulaient vite quitter l'endroit où ils se trouvaient. Alors, ils sont sortis et là, ils se sont fait prendre par l'armée. Et alors, le Che disait, mais ceux-là parlent trop. Parce que, bon, ils ont donné tous les détails de tout. Et alors là, la CIA a eu la puce à l'oreille. Et alors, ils se sont dépêchés à envoyer tous les agents possibles et toute l'aide possible à l'armée bolivienne. Parce que finalement, qui dirigeait l'armée bolivienne, ce n'était même pas les généraux, les officiers boliviens, c'était la CIA.
Oui, c'était les commandés, quoi qu'il en soit.
Et alors, c'était les Pentagones, c'était les commandements sur qui existent en Amérique latine, gérés par le Pentagone. Alors bon, il y a eu un concours des circonstances qui l'ont fait tomber. En plus, le groupe de guérilla a été divisé en deux et le Che ne voulait pas essayer de quitter la région sans savoir qu'est-ce que l'autre groupe était devenu. Et l'autre groupe faisait pareil. C'est ça qui est terrible, parce qu'ils se cherchaient mutuellement. Et la veille de l'assassinat du Che, l'autre groupe était là, à la Guéral, dans le hameau où le Che a été assassiné. Alors, c'est triste,
c'est triste,
qui s'est passé.
Effectivement.
Alors, il a été tué, bon, alors je le répète, en défendant ses idées jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il n'a pas eu peur de la mort, parce qu'il avait les yeux ouverts et le visage en paix. Pas de quelqu'un qui craignait de mourir et qui demandait qu'on lui épargne et le laisser en vie. Non, non, non. Lui, jusqu'au bout, il est resté ferme dans ses convictions. Et ce regard continue à nous regarder, à nous accompagner.
Tout à fait. Nous allons parler de l'héritage du Che. Quel est-il cet héritage et quels sont-ils les héritiers du Che, pourrait-on dire. Mais ce qu'il y a d'incroyable à observer, c'est également la volonté, alors ça c'est peut-être un trait qu'il partage avec Thomas Sankara, c'est la volonté d'effacement complet de ces personnes-là du paysage historique, mémoriel, politique. On veut vraiment faire table rase tellement ils ont représenté dans leur rectitude et dans leur loyauté devant des horribles choses qui leur sont arrivées, eh bien, on essaie de les effacer complètement de la mémoire populaire. C'est d'autant plus important, justement, de remettre en avant cet héritage-là. D'ailleurs, est-ce qu'on veut s'écouter encore une petite chanson ou...
Oui, ce serait bien. Allez. Une pause. Alors, on passe à une chanson. Il y a un interprète, compositeur, chanteur à texte, Daniel Biglietti, uruguayen. Alors, nous, on a rencontré Daniel et on a même organisé des concerts de Daniel Biglietti ici à Genève. Et là, on a eu l'occasion de parler du Che et il nous a raconté que quand il était à Cuba quand le Che a été assassiné. Et Daniel, il admirait tellement le Che, il était effondré. Il a composé cette chanson à la hâte, avec tout son cœur, avec tout son être, cette belle chanson. Et maintenant, on va l'écouter.
Que l'on va écouter, oui. Alors, on y va tout de suite, c'est parti.
Chanson pour l'homme nouveau.
Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres.
sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido. Millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libre Radio, www.libradio.org. Voilà, donc le 9 octobre 1967 était assassiné le commandant Che Guevara. Alors, dis-moi Vilma, à ce moment-là, que se passe-t-il au moment où l'on apprend l'assassinat du Che à Cuba? Comment réagissent les gens? Ça date de la fin du monde pour certains d'entre eux.
Ah mais oui, parce que il ne faut pas oublier ça, le livre, le journaux qui veulent dénigrer la mémoire du Che, ils répètent que Cuba l'avait abandonné, que Fidel l'avait abandonné. C'est faux, parce que il y a les documents et aussi les témoignages de tous ceux qui ont participé aux côtés du Che. Et tous ces combattants ont été formés à Cuba, avec le soutien évidemment direct de Fidel. Mais il ne pouvait pas le crier sur tous les toits. Mais alors, le système a profité pour faire croire que Fidel... Même l'autre jour, j'ai lu sur Facebook, ou bien on me l'a dit aussi, « Ah mais non, mais Fidel l'a abandonné, c'est lui qui a informé la CIA pour qu'on le retrouve. » C'est vraiment tellement ridicule. Alors évidemment, ils étaient tous effondrés, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que Fidel et Che étaient des vrais frères. Ils s'aimaient comme des frères, parce qu'ils étaient des frères de lutte, mais ils étaient aussi des amis, profondément amis. Il y avait une amitié extraordinaire entre les deux, parce qu'en plus, c'était deux personnes d'une culture tellement énorme et d'une intelligence tellement grande. Je me dis, mais deux esprits pareils qui se sont retrouvés, ils s'aimaient beaucoup. Et d'ailleurs, même les enfants, j'ai eu l'occasion de rencontrer la fille aînée du Che. Et elle disait, mais pour elle, Fidel a été un deuxième père, parce que lui, il s'est toujours occupé de la famille du Che, parce qu'il ne faut pas oublier, le Che avait 5 enfants.
Absolument. Voilà, c'est ça, c'est que souvent on occulte un peu le Che n'était pas qu'un combattant, c'était
non, effectivement un être humain.
Un être humain avec toute sa complexité, son intelligence, ses mots, ses pensées. Ses tripes également, et effectivement, ça, c'est souvent un petit peu occulté. Mmh. Selon toi, quel est-il, alors, justement, cet héritage? Parce que là, on a parlé de Cuba, mais dépassons Cuba et venons-en à l'Europe. Ici, comment... Alors, au moment de son décès, est-ce qu'en Europe, il y a eu des réactions? Et quelles ont-elles été, ces réactions?
Mais je crois qu'à l'époque, l'Europe était plutôt plus préoccupée de sauver Régis Debray. Hein. Il ne faut pas oublier
qu'il était dans les partie.
Il n'est pas seulement un écrivain, un intellectuel, mais c'est un intellectuel de la haute bourgeoisie. Alors évidemment, il avait tout un réseau au niveau politique. Tout le monde parlait surtout de Debray. Mmh. Et bon, il a fait quand même 2 ans de prison, je crois presque 3 ans, il a été libéré. Mais pour les Che, mais on a toujours voulu tacher son image, dire c'était un aventurier. Ouais, hein. Ouais. Mais ce n'est pas le cas en Amérique latine, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Amérique latine, je reviens à l'Amérique latine, mmh. Donc, il ne faut pas oublier que l'Amérique latine est une sorte de laboratoire. Et où parce que on est né, je crois, avec les gènes pour combattre, parce que c'est un continent qui a été envahi, qui a été soumis à un génocide terrible jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est même pas reconnu, c'est une honte.
C'est clair.
Et l'Espagne n'a jamais demandé des excuses et encore moins pardon. Oui. À cause de toutes les exactions commises et tous les vols aussi, à part les génocides des peuples originaires. Mm-hmm. Alors,
sans parler du voisin du haut qui, effectivement, au travers de l'époque notamment contemporaine, a reproduit encore les pires exactions en mettant également en place, en soutenant des régimes dont on connaît l'horreur maintenant. Heureusement qu'on dévoile à peine, et encore là, il y a encore des zones d'ombre nombreuses.
Oui. Ouais. Alors, en Amérique latine, cette flamme continuait par le Che, parce qu'il n'était pas le premier, il n'était pas le seul. Il y a eu tous les autres, comme Bolivar, comme Juana Zurduy de Padilla, on ne la connaît pas, c'était une femme qui a libéré l'Argentine, le Chili, une partie de la Bolivie et le Paraguay, on ne parle pas d'elle. Et c'était une femme qui a lutté avec l'épée, montée sur un cheval. Elle dirigeait toute une troupe de guerrilleros, parce qu'à l'époque, on les appelait déjà guerrilleros. Mmh. Alors, il y a eu ça, il y a eu Sandino, il y a eu José Martí, tant d'autres. Et on arrive jusqu'à la dernière mobilisation armée en Amérique latine en 1994 avec les zapatistes.
Oui.
Eux aussi, ils ont revendiqué le drapeau de Bolivar, du Che, de tous. Hein? Oui. Et d'ailleurs, la première communauté autonome zapatiste a été baptisée Ernesto Che Guevara.
J'ignorais. Oui.
Alors bon, maintenant on passe à un autre morceau musical.
Oui, allons-y.
Et alors, là, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire, une chanson que le Che chantait, parce que le Che était incroyable, il chantait aussi, il jouait de la guitare, et il chantait cette chanson qu'on va écouter, mais je vous raconte d'abord l'histoire de la chanson. La chanson s'appelle « Samba para no morir », « Samba pour ne pas mourir ». C'est samba, c'est un rythme musical de l'Argentine. Il y en a aussi au Brésil ce genre de rythme, mais c'est différent que l'argentin. Alors, cette chanson a été composée par un poète qui a écrit beaucoup de chansons, qui s'appelle Hamlet Lima. Et alors lui, il avait écrit cette chanson et il l'a même chantée. Mais il y a plusieurs artistes argentins et latino-américains en général qui l'ont chantée parce qu'elle est très belle. À l'époque, le Che, il aimait aussi cette chanson. Et il chantait cette chanson quand il sortait dans le petit village là où il était en Bolivie. Il y avait un village où il y avait un bistrot où il allait souvent, où il chantait cette chanson. Et les gens, ils ont continué à chanter la chanson en disant c'est la samba du commandante Che Guevara. Alors ils ont baptisé comme ça cette chanson. Quand un chanteur argentin est parti en tournée, il avait fait une grande tournée en Bolivie et il est arrivé dans la région où le Che était autrefois. Les gens, pour lui rendre hommage au chanteur qui avait donné des concerts et tout ça, parce qu'il est très connu, Torres, Jorge Torres, et on lui avait chanté cette chanson en disant oui, on vous chante la chanson du Che. Mais il avait entendu, mais ce n'était pas la chanson du Che, mais c'est les gens qui ont donné ce nom-là. Voilà.
Yeah.
Libre Radio, la radio qui bouge les lignes et qui renverse les situations. Podcast, newsletter, et pire encore sur www.libradio.org.
Voilà, donc nous allons également parler maintenant d'une autre facette hein, de ce personnage complexe, oui. Tout simplement humain. Qui était le Che, et notamment la partie poésie, hein, tu nous disais, Vilma. Et ensuite, nous reviendrons au programme, à strictement parler de la soirée de commémoration, dont on rappelle d'ores et déjà qu'elle aura lieu le lundi 9 octobre, à partir de 19h, ici à Genève, à l'Université ouvrière, qui se trouve à la place des Grottes.
Voilà. Alors, nous disons que le Che était un être essentiellement humain, et qui aimait beaucoup la poésie. Les grands poètes latino-américains, mais aussi quelques poètes espagnols, et parmi eux, Léon Felipe, un poète républicain espagnol, qui lui avait envoyé un livre dédicacé au Che. Et le Che lui répond en disant ceci, en 64 donc. Lui écrit en disant « Il y a longtemps, lorsque la révolution a pris le pouvoir, j'avais reçu votre dernier livre dédicacé. Je ne vous ai jamais remercié, mais je l'ai toujours gardé en moi. Peut-être ne savez-vous pas que parmi mes deux ou trois livres de chevet, j'ai toujours El Ciervo, Les Cerfs, un livre de Léon Felipe. J'ai peu de temps pour m'y plonger parce qu'à Cuba, dormir, avoir du temps libre de repos et simplement empêcher des lèses dirigeants. L'autre jour, j'ai assisté à une réunion très importante pour moi. La salle était bondée d'ouvriers enthousiastes et y régnait un climat d'hommes nouveaux. Une goutte du mauvais poète qui dort à moi remonta à la surface et j'ai eu recours à vos mots dans le débat avant de pouvoir discuter avec la distance suffisante. C'est mon hommage. Je souhaite que vous l'interprétez ainsi. Si vous êtes tenté par les défis, je vous invite à Cuba. Avec mon admiration sincère et toute mon estime. C'était le mot du Che pour le poète espagnol, républicain espagnol, Léon Felipe. Voilà.
Voilà encore une facette de ce personnage-là que l'on va aborder le 9 octobre, puisque, voilà, alors qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée de commémoration ?
Lors de cette soirée, nous aurons la présence, évidemment, des ambassadeurs cubains, l'ambassadeur cubain auprès de la Suisse, qui est à Berne, qui viendra pour la soirée. Aussi, l'ambassadeur cubain représentant auprès de l'ONU. Il y aura l'ambassadeur vénézuélien représentant auprès de l'ONU, et l'ambassadrice de Venezuela adjointe aussi, qui était aussi ambassadrice à l'UNESCO avant de venir ici. Et il y aura une représentation de la mission de l'Union africaine aussi. Et bon, voilà, les publics, vous, qui ferez les déplacements. Et alors, il y aura aussi un chanteur vénézuélien qui va chanter quelques chansons qui ont été composées en hommage au Che aussi. Et pour finir, la lecture d'un grand comédien lausannois, Jacques Roman, qui vient de Lausanne pour nous faire la lecture. On ne dévoile pas quelle lecture, mais ça vaut la peine de faire les déplacements. Et Jacques Roman, c'est un homme extraordinaire. Et parce qu'il n'est pas seulement comédien, il est aussi réalisateur, il est dramaturge, il est poète, il est écrivain, il a écrit des tas de livres. Et je vais juste vous lire un petit vers de lui d'un petit bouquin qui s'appelle « De la contemplation de la page blanche, loin de la page blanche ». Alors, la page blanche n'est ni l'horizon du livre, ni sa plage. Elle accueille et sèche les larmes du livre, afin qu'il prenne place dans la grande image du monde. Alors, nous aurons la présence de Jacques Roman, qui a joué dans des tas de pièces ici à Genève, à Lausanne, un peu partout en Romandie et aussi en France.
Okay. Et alors, on le rappelle, lundi 9 octobre, à 19h, à partir de 19h, à l'Université ouvrière de Genève, donc l'UOG, place des Grottes 3. Oui. C'est juste derrière la gare, donc on peut vraiment arriver très facilement, soit par le train, soit par beaucoup de bus qui arrivent à la gare, dans le quartier des Grottes ici. Mmh. Et puis l'UOG est à 2 minutes des Grottes. On va peut-être aussi également dire que si des personnes souhaitent vous contacter, eh bien, il y a un mail de contact hein, qui est le suivant, info@nueva-utopia.ch. On va également mentionner les associations partenaires. Nous avons la DETRA, qui est donc l'association de défense des travailleuses et travailleurs, la Lettre Libre, Latino America del Siglo XXI, la librairie Nueva Utopia, la Maison Populaire de Genève, l'Organisation de la Société Civile et Diaspora Africaine en Suisse, également le Parti du Travail, le Parti Patriotique de Turquie en Suisse et l'Union de la Jeunesse de Turquie en Suisse. Et puis, il y a des partenaires médias, Le Courrier, nous à Libre Radio, bien entendu. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous y avoir invités. Nous arrivons doucement au terme de l'émission. Donc, ce que je vous propose, à moins que Vilma, tu aimerais encore compléter ce que je viens de dire.
Mm-hmm. Non, je crois que tout est dit. Est-ce qu'on a le temps pour lire la dernière lettre du commandant Ernesto Che Guevara adressée à ses enfants?
Alors ça, ce sera justement le bon mot de la fin. Ce que je voulais vous demander, c'était est-ce que vous préférez que l'on fasse avant une petite chanson ou bien on fait directement la lecture et on termine par la musique que vous aurez choisie?
On termine par la musique.
Et alors, on va peut-être d'ores et déjà annoncer la musique que l'on va écouter.
Oui, alors c'est la musique traditionnelle que tout le monde connaît, Hasta Siempre Comandante, interprétée par son auteur Carlos Puebla.
Très bien, donc on terminera avec ça, mais avant cela, en vous remerciant tous les deux d'être venus jusqu'ici, Pierre va nous faire la lecture de la dernière lettre d'Ernesto Che Guevara à ses enfants.
Cher Hildita, Adelaide, Camillo, Celia, Ernesto, si vous devez un jour lire cette lettre, c'est que je ne serai plus parmi vous. Vous ne vous souviendrez presque plus de moi et les plus petits m'auront oublié. Votre père a été un homme qui a agi selon sa pensée et qui a été assurément fidèle à ses convictions. Grandissez comme de bons révolutionnaires. Étudiez beaucoup pour pouvoir dominer la technique qui permet de dominer la nature. Souvenez-vous que c'est la révolution qui est importante et que chacun d'entre nous, pris isolément, ne vaut rien. Soyez surtout capable de sentir au plus profond de vous-même toute injustice commise contre quiconque en quelque partie du monde. C'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. À toujours, mes enfants, j'espère vous voir encore. Un grand et fort baiser de papa.
Santa Clara se despierta. vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
La mort du Che. Chemise déchirée en plein air, les tueurs aux tueurs ressemblent. Sur la photo, il pose à mort, mais on le voit bien dépassé par l'aigle qu'ils ont accroché, qui les ignore. À côté, il y a une école où des gamins apprennent à lire, posez là un journal de bord où tu n'as pas le temps d'écrire le nom de celui qui trahit le 7 octobre en Bolivie. Elle se mord si jeune encore, qui les ignore. Ernesto Che Guevara a pris son indépendance.